France Inter, le 18-20.
Il faut reconnaître que tous les quinquennats ont eu droit à leur fronde, venue des communes sans remonter trop loin en arrière. Souvenez-vous, après toute cette taxe professionnelle supprimée par Nicolas Sarkozy, des baisses drastiques de dotations entamées par François Hollande. Et là, ça continue alors que la coupe, semble-t-il, était déjà pleine. Les économies pour baisse de dotations, c'est 13 milliards sur 5 ans. La fin des contrats aidés s'ajoute à cela. Et puis le gros sujet, cette fameuse taxe d'habitation qui disparaît pour 80% des foyers. Savez-vous que dans certaines communes, il ne reste qu'une personne, une seule, à payer la taxe d'habitation, donc à refaire à elle toute seule, la salle des fêtes. Allez, essayons de ne pas caricaturer tout de même. Est-ce que les mairies peuvent encore fonctionner? Est-ce que la décentralisation est en jeu quand on transforme un impôt en compensation de l'État? Est-ce que les communes sont en train de perdre leur autonomie financière? Est-ce qu'on creuse les inégalités entre les communes? Ça nous concerne tous, puisque par définition, nous habitons tous une ville, un village, ou encore plus petit. C'est à vous de jouer, donc.
Fabienne Synthès. Le téléphone sonne.
Et c'est vous qui commencez, Daniel. Soyez le bienvenu au téléphone sonne. Vous êtes maire précisément d'un village, vous?
Oui, alors je suis maire d'un tout petit village de 175 habitants dans le Pas-de-Calais. Et donc je voulais intervenir sur deux points. D'abord sur la suppression pour 80% des ménages de la taxe d'habitation. C'est vrai que depuis moi 30 ans ou 40 ans, j'entends dire que cette taxe était injuste. Mais alors, si je comprends bien M. Macron, elle serait injuste pour 80% des personnes et elle serait juste pour 20% des personnes qui vont continuer à la payer. Donc ça, déjà, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est beaucoup plus technique.
Allez-y.
C'est-à-dire que le calcul de la taxe d'habitation est basé donc sur la valeur locative d'une maison qui est multipliée par un pourcentage qui est voté par le conseil municipal, hein, par le département aussi d'ailleurs pour ce qu'il en est. Mais chez nous, le conseil municipal donc décide d'un pourcentage de cette valeur locative. Nous, il s'avère que depuis plusieurs années, nous baissons notre taux. C'est-à-dire qu'on était à 17%, on est arrivé maintenant à 10%. Donc on a baissé depuis plusieurs années. Et donc, finalement, ça nous fait un manque à gagner, mais on l'a fait dans l'intérêt de nos habitants, qui du coup payent moins de taxes d'habitation. Bon, voilà, c'était vraiment intéressant de le faire. Mais aujourd'hui, l'État donc supprime cette taxe d'habitation et va compenser. Il va compenser, ça veut dire qu'il va finalement verser aux communes ce qu'elles percevaient au niveau de cette taxe d'habitation. Moralité, les communes qui n'ont pas baissé leur taxe d'habitation, qui ont encore des taux très élevés, vont percevoir plus que nous, la petite commune qui a fait un effort et qui a baissé ses taxes d'habitation au fil du temps.
Voilà.
Donc ça me paraît une énorme injustice, sauf si je n'ai pas bien compris, évidemment, le mode de remboursement de cette taxe.
Eh bien écoutez, on va voir ça tout de suite en posant la question autour de la table. Merci beaucoup Daniel pour votre question. Pour vous répondre justement avec nous au téléphone sonne ce soir, Jean-Luc Moudenc, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le maire de Toulouse, vous êtes président de France Urbaine, pardon. Jean-Michel Maurer, bonjour, bonsoir d'ailleurs. Vous êtes maire PS de Trilport, c'est en Seine-et-Marne. Et Vannick Berberian est là aussi, bonsoir.
Bonsoir.
Président de l'Association des maires ruraux de France. Vous êtes maire de Gargilès-Dampierre. C'est dans l'Indre. Deux choses pour répondre aux questions de Daniel. On va commencer avec vous, Jean-Luc Moudenc, si vous le voulez bien. D'abord, le côté injustice, effectivement, pourquoi il en reste 20 au final? Est-ce que c'est une question que vous entendez beaucoup chez vos administrés, à vous? 80% sont exonérés, il reste 20%. Mais pourquoi moi?
Deux choses. D'abord, c'est le président de la République qui respecte sa promesse. Donc là-dessus, il y a tellement eu de promesses non respectées qu'on ne peut pas lui reprocher ça. Après, effectivement, sur le fond, à partir du moment où on considère que cet impôt est un impôt injuste, dire qu'il va subsister pour 20%, c'est encore plus injuste. Et donc je crois que la logique, en fait, dans laquelle le gouvernement devra, à mon avis, travailler un jour, c'est la suppression totale de la taxe d'habitation et la substitution de cette taxe, non pas par un dispositif de compensation dont on sait qu'il ne peut pas être pérennisé éternellement, mais par un transfert négocié avec nous, les élus locaux, d'un autre impôt pour que nous retrouvions de l'autonomie fiscale.
Ça veut dire qu'il faut forcément qu'il y ait un impôt entre la commune et ses habitants. Il faut que les habitants payent un impôt direct, en quelque sorte, pour avoir le sentiment réellement que ça sert à quelque chose, Jean-Michel Maurer.
En fait, il y a deux logiques différentes, je pense. Effectivement, constat, et on sera tous d'accord, la taxe telle qu'était les impôts locaux était injuste, hein, puisque les bases étant ce qu'elles sont, c'est tout le monde, ça fait 30 ans qu'on doit faire une réforme des bases, elle n'a jamais été faite, elle ne tient pas compte du revenu. Elle ne tient pas compte de pas mal de facteurs. Donc, de toute façon, l'impôt local était le plus injuste qui soit. Le problème qui se pose maintenant, il est d'un tout autre niveau. C'est-à-dire que, très clairement, on remplace une injustice par une autre injustice avec un modèle un peu boiteux, puisque clairement, on se rend bien compte que ce système, il va pas fonctionner.
Bah, il a raison, Daniel, alors, d'ailleurs, quand il dit qu'il sera compensé à hauteur de 10%, alors qu'autrefois, il avait une taxe à 17%, il a raison.
Alors, oui et non, parce que c'est une logique aussi, on pourrait, là, on rentre vraiment dans une mécanique qu'on a connue au niveau des intercommunalités. Ce qu'on peut dire, par contre, c'est que d'autres pays, on prend l'Allemagne, par exemple, dans l'impôt que les Allemands payent sur le revenu, une part de l'impôt va aux collectivités. Donc moi, je pense effectivement qu'il faut qu'il y ait un lien d'impôt avec un habitant sur un territoire. Par contre, très clairement, plusieurs modèles sont possibles, mais de toute manière, il faut une règle claire, surtout, et qui soit lisible sur les années à venir, car globalement, la grosse problématique des collectivités, c'est ce manque de clarté dans le temps.
Vanik Berberian, est-ce que vous, maire des communes rurales, est-ce que c'est encore plus compliqué? Est-ce que ça veut dire que pour certaines communes, il n'y aura plus de taxe d'habitation du tout? Donc cette source de revenus va disparaître intégralement, faute à être compensée, effectivement.
Alors on nous annonce la compensation, hein, euro. Tout le monde est sceptique. Parce que c'est pas la première fois que des promesses comme celle-là ont été faites. Et on a vu par le passé que si la première année c'est compensé, la deuxième c'est un peu moins, la troisième encore.
Est-ce qu'on sait si ça pourra bouger? Pardon de vous interrompre. Parce qu'effectivement, comme nous l'a expliqué Daniel, une taxe d'habitation, on pouvait la faire bouger, on modifiait les taux. La compensation, si on la fixe, un chiffre au hasard, à 100 000 euros, l'année suivante, ce sera toujours 100 000 euros,
non,
et la suivante, 100 000 euros.
C'est ça. Alors, moi, si vous voulez, la question qui se pose aussi, c'est à quoi sert l'impôt? À quoi sert la taxe d'habitation? Et je pense qu'il est important que les citoyens soient en lien direct avec les dépenses qui sont faites sur leur commune. Ça les responsabilise. La question après, derrière, pour les communes rurales, c'est comment fonctionner? Vivre avec quoi? Et c'est là où ça devient un petit peu compliqué. C'est-à-dire que quand vous avez des citoyens qui sont peu riches, forcément, vous avez peu de ressources. Et la question donc du fonctionnement financier de la commune ne se limite pas à la question de la taxe d'habitation. Il y a également les autres taxes. Et donc, il aurait été intéressant qu'une réflexion globale sur la manière dont les collectivités peuvent fonctionner en fonction de ce qui existe comme dispositif de taxe.
Et on reste sur le même thème parce qu'il y a beaucoup de questions autour de cette taxe d'habitation avec vous, Agnès. Bonsoir, Agnès. Soyez la bienvenue sur Inter. On vous écoute.
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir à tous. Merci de m'accueillir. Bon, moi, je fais partie de ces gros riches qui vont continuer à payer la taxe d'habitation alors que mon revenu fiscal n'excède que de 500 euros par an le plafond de l'exonération et que je paie 1 800 euros de taxe d'habitation. Donc, en fait, à titre d'être une grosse riche, je vais me retrouver avec 1 300 euros de moins que les gens qui seront exonérés, ce que je trouve tout à fait injuste. D'autre part, je vais continuer à payer une taxe d'habitation pour financer des services qui risquent de ne plus être fournis, en particulier au niveau de la voirie qui est assez importante dans ma commune. Donc, je voudrais savoir de quel recours je dispose pour faire valoir mes droits dans cette situation qui me paraît non seulement injuste, mais d'une démagogie que j'ai rarement vécue jusqu'à maintenant.
On a compris le sens de votre question, Agnès, et on va tâcher d'y répondre autour de cette table. D'abord sur les recours, tiens, il y a un recours qui a été déposé par vos collègues maires, auprès du Conseil constitutionnel, disant que l'impôt doit être égal pour tout le monde. Est-ce que ça a une chance d'aboutir, ça? Est-ce qu'on le sait, Jean-Michel Maurer?
Je pense que, clairement, effectivement, les questions de constitutionnalité se posent simplement, très clairement, à mon sens. Il y a deux logiques différentes. La logique de dire que la taxe, le modèle ancien est à bout de souffle, était injuste, on est d'accord. Le modèle qui nous est proposé, globalement, suscite l'unanimité des associations d'élus contre lui, quoi. Et donc, très clairement, l'important est le mot, je pense, qu'il faut rétablir et remettre en priorité dans les relations collectivité-État, c'est dialogue.
Et vous avez le sentiment que ça a disparu, ça? On a plutôt eu le sentiment aujourd'hui que devant Édouard Philippe, ça s'était plutôt bien passé, entre Édouard Philippe et vous, les maires?
Entre juillet, où la Conférence nationale du territoire et toutes nos associations étaient représentées et parties prenantes, et les différentes annonces de l'été, on ne peut pas dire qu'il y a eu quelques coups de canif dans le contrat. Alors, le mois de décembre, alors déjà jeudi avec l'intervention du président de la République, et puis le mois de décembre avec le deuxième tour de la Conférence nationale du territoire, nous amènera peut-être à revenir aux vertus d'un dialogue responsable.
Jean-Luc Moudin, vous avez l'air d'un maire plus satisfait. Je vous voyais faire oui avec la tête quand je disais que Édouard Philippe avait été plutôt bien accueilli ce
oui,
soir.
Oui, il a été bien accueilli parce que tout le monde a applaudi à la fin. C'était pas évident pour lui. Il a fait la pédagogie de ses réformes. Bon, ce qui s'est passé effectivement à la Conférence nationale des territoires, c'est une instance que nous avons demandé, nous les élus locaux, à savoir faire en sorte que désormais nos associations soient officiellement reconnues et en amont des processus de décision de l'État sur les choses qui nous concernent, puisque avec la fin du cumul des mandats, il n'y a plus de représentants d'exécutifs locaux dans les deux assemblées parlementaires. Donc la chose, elle est bonne sur le principe. Le problème, c'est que effectivement, il y a eu quelques ratés pendant l'été. Et je crois que c'est dû au fait que l'État n'est pas du tout habitué à travailler comme ça. Le poids de la technostructure de l'État, c'est quelque chose de fort, quelque chose d'ancien. Il faut simplement que le politique reprenne le dessus et que le gouvernement s'astreigne à un dialogue systématique pour que les choses soient conçues de concert avec nous.
Allez, Alain nous appelle du Cantal. Alain, bonsoir, soyez le bienvenu sur France Inter, bonsoir. On vous écoute.
Bonsoir France Inter, bonsoir monsieur le maire autour de la table. J'ai été maire adjoint pendant 20 ans sur une petite commune du Cantal. Je pose la question encore, qu'on fait partie quand même d'une Europe, une grande Europe, mondialisation et tout, encore qu'il y a encore des communes qui sont affichés au nom de communes, de moins de 100 habitants, 200, 300, 400. Est-ce qu'on ne pourrait pas mutualiser pour arriver, supprimer toutes ces communes qui ont moins de 500 habitants, qu'elles n'ont plus les moyens de travailler, quoi. Mais et plus les dispositions et tout. Or, quand on est en communauté de communes, on a quelque chose qui est plus fort, qui est plus réuni, qui est plus communautaire et qui va vers l'avenir.
Merci pour votre question, Alain. C'est pour vous, ça, Vanik Berberian, vous qui êtes le président de l'Association des maires ruraux de France.
Oui, je ne sais pas à partir de quel raisonnement on peut dire que 500 habitants, c'est un bon seuil.
Bah, il faut toujours un plafond, c'est comme pour la taxe d'habitation, vous savez.
Oui, sauf que se limiter aux chiffres, c'est sans doute un petit peu court dans le raisonnement. Il y a aussi la question de l'espace et de la densité de population. Et moi, j'ai envie de poser une question un peu différemment à cet ancien collègue. La question, c'est est-ce que la commune est utile ou non ? Si elle est utile, il faut la maintenir et faire en sorte qu'elle puisse continuer à exister. Si elle n'est pas utile, effectivement, on peut la faire disparaître. Mais la question des moyens, et ça fait le lien aussi avec ce dont on parlait là tout à l'heure, est vraiment posée. Aujourd'hui, une commune se doit d'avoir des moyens pour répondre aux besoins des habitants, lesquels habitants changent également. C'est-à-dire qu'il y a une évolution des attentes et des besoins des personnes. Et donc, on est dans une phase de mutation. Et je crois que le paysage qu'on connaissait de la ruralité d'hier avec un émiettement, c'est quelque chose qui aujourd'hui n'a plus de sens. Et nous sommes, nous, maires ruraux, très attachés à la liberté de se définir. Il y a la question des communes nouvelles, qui est une proposition qui est faite pour les communes qui ont peu d'habitants ou en tout cas des communes qui considèrent ne plus avoir les moyens de fonctionner. Nous, chez les maires ruraux, on dit pourquoi pas. Pourquoi pas, mais c'est pas au maire de le décider, c'est pas au préfet de le décider, c'est aux habitants de la commune. Parce que la commune nouvelle, c'est quelque chose de très important, c'est une décision historique. On supprime une commune et on en crée une nouvelle. Et personne autour de la table, autour d'un conseil municipal, n'est agréé pour définir, pour décider de la vie ou de la mort d'une commune. Donc il y a une question démocratique qui se pose. Voilà. Et puis si je...
Et personne n'a réellement envie que sa commune disparaisse, cependant.
Oui, non, mais
si, j'imagine autour de la table ce que ça peut donner en conseil municipal, non ?
Après, non mais bon, on peut aussi créer une commune nouvelle, si vous voulez. Mais je crois que l'autre question qui est derrière, c'est celui d'équilibre du territoire. Est-ce qu'on va continuer donc à concentrer les habitants, les moyens, les pouvoirs dans les pôles urbains, ou est-ce qu'on va viser un équilibre ? Et si la finalité, c'est de viser un équilibre, peut-être qu'il n'est pas utile de déstructurer l'architecture aujourd'hui territoriale.
Jean-Luc Moudin, que vous souhaitiez intervenir, maire de Toulouse.
Je crois que les
Français... Vous pouvez manger autour de vous, Toulouse. C'est la grande ville.
Je crois que les Français sont très attachés à leur commune, et je crois que la philosophie qu'a rappelé mon collègue Vanik Berberian est la bonne, c'est-à-dire que cette volonté de fusionner des communes, ça doit être la volonté des communes. Mmh. Ça n'est pas possible que les choses soient envisagées de manière autoritaire d'en haut et autrement.
C'est-à-dire que ça peut pas être une question de population à plus de 100, moins de 100.
Je ne pense pas, parce que ça, c'est une vision systématique, technocratique. Mmh. C'est pas le vécu des gens. Par contre, ce que je veux répondre à l'ancienne collègue qui nous a interpellé, c'est que la notion de commune nouvelle a été créée il y a quelques années à peine. Et en quelques années, il y a pas loin de 1000 communes qui ont fusionné. La France des 36 500 mmh. communes, elle est aujourd'hui autour de 35 500 communes. Ouais. Donc, c'est quand même une formule qui marche. Et puis après, il y a l'intercommunalité, tout de même, qui nous permet, en respectant l'identité des communes, de mettre ensemble un certain nombre de moyens, de traiter ensemble un certain nombre de problèmes, de conduire ensemble un certain nombre de projets par de la mutualisation et de la solidarité. Et ça aussi, c'est une réponse sur le fond à la question qui a été posée.
Jean-Michel Morin, juste en un mot.
Et puis moi, je pense qu'il faut arrêter de répondre avec des réponses de seuil, effet de seuil, Big is Beautiful, et puis les poupées russes. Je crois qu'un territoire, c'est pas des poupées plus grandes, etc. Le Moyen-Âge, c'est fini. Hein. Il y avait les comtes, les duchés, les princes, etc. Aujourd'hui, on est sur des bassins de vie, des bassins de mobilité. Et l'important, c'est pas le périmètre. L'important, c'est pas non plus c'est l'action et la capacité d'agir. Et clairement, il y a un débat sur les compétences. Clairement, il y a un débat sur les projets. Ça, c'est sûr. Et c'est vrai que la formule, les petites villes, c'est un peu, c'est intercal, hein, c'est entre 2500 et 25 000. On est très attaché à cette notion d'identité par rapport à ça, mais également de pouvoir être libre de son destin et surtout libre de rejoindre des autres intercos, des autres collectivités correspondant à un bassin de vie. Vous savez, une ligne de chemin de fer, elle s'arrête pas à deux villes. C'est tout un réseau qui peut être sur plusieurs régions, etc. Donc la question des périmètres, à mon sens, c'est une question déjà dépassée.
Est-ce que, pardon de cette naïveté, est-ce qu'on peut revenir en arrière dans un périmètre, justement, quand on a décidé de s'acoquiner avec une autre ville parce que ça avait l'air de correspondre mieux et que c'était plus pratique pour les habitants, pour chacun et moins cher, et puis finalement non. Est-ce qu'on peut revenir en arrière?
Oui, enfin, vous avez utilisé le terme d'acoquiner, c'est curieux. Voilà, on ne s'acoquine pas, c'est-à-dire qu'on a plutôt...
On s'allie.
On s'associe. Une commune, ce n'est pas qu'une administration communale, ce n'est pas qu'un maire, un conseil municipal, c'est aussi une vie locale, une vie associative, c'est une population. Et on se reconnaît dans cet espace-là. Donc voilà, je vais vous dire, ma commune s'appelle Gargilès-Dampierre, Gargilès-Dampierre, fusionnée par décret royal. Donc avant la mode des communes nouvelles, je peux vous dire qu'il y a toujours deux villages. Voilà, parce que on touche à la sensibilité des gens, à leur culture, à leur histoire, à leur mode de vie. Alors on est tous de Gargilès-Dampierre, mais parfois, on est un peu plus de Dampierre ou un peu plus de Gargilès. On n'y peut rien, c'est comme ça.
C'est votre histoire de Georges Sand qui fait le lien entre les deux, c'est ça?
Peut-être. Voilà. Peut-être.
Vous avez Georges Sand, d'autres n'ont pas Georges Sand. Allez, Jean nous appelle au 01 45 24 7000. Bonsoir Jean.
Oui, bonsoir.
Et on vous écoute.
Bonsoir à tout le monde et merci de prendre ma question. J'ai un devoir de réserve parce que je suis fonctionnaire territorial.
Ah.
Donc Jean, c'est pas tout à fait mon prénom en entier. Je voulais dire ma solidarité avec les maires qui sont là ici ce soir et avec tous les maires de France et mon attachement à la décentralisation et au service public de proximité auquel je participe. Mais Macron nous a promis qu'il allait supprimer 120 000 postes de fonctionnaires. Et j'ai un peu peur qu'avec la pression qu'il fait sur les finances des communes, ça soit nous les 120 000. Et je trouve dommage, par anticipation, de voir dans beaucoup d'annonces de recrutement que les maires anticipent, c'est-à-dire qu'ils maintenant ils recrutent de plus en plus de contractuels, ou alors ils déclassent les postes, c'est-à-dire qu'on demande maintenant à quelqu'un qui a un bac plus 3 d'être recruté comme cadre C. Ça, les maires y comprendront. Normalement, bac plus 3, c'est cadre A ou cadre B. Donc j'ai l'impression qu'on cherche à faire des économies un peu sur notre dos, et puis c'est dommage d'anticiper de cette manière-là. Mais je vous soutiendrai toujours.
Ben voilà, vous avez le soutien de Jean-Luc Moudin. Qu'est-ce qu'on a tendance à regarder, effectivement, les fonctionnaires territoriaux et leur nombre à
terme. Ce qui est certain, c'est que au cours des 15 dernières années, il faut le reconnaître, le nombre de fonctionnaires territoriaux a augmenté, alors que celui des fonctionnaires d'État diminué. Pour autant, ce que j'observe, c'est que depuis presque 6 mois qu'il est élu, Emmanuel Macron n'a pas reparlé de cet engagement qu'il avait pris pendant la campagne électorale de suppression de postes de fonctionnaires. Je trouve d'ailleurs très difficile pour un gouvernement de vouloir supprimer des fonctionnaires d'une fonction publique qui n'est pas placée sous son autorité. Parce que Les fonctionnaires d'État sont sous l'autorité du gouvernement, mais les fonctionnaires des collectivités sont sous l'autorité des maires, présidents de région et de département ou d'intercommunalité. Donc je trouve qu'effectivement, c'est une proposition qui est un peu limite. Voilà. Après, nous sommes soumis, et ça c'est pas nouveau, depuis des années, à la nécessité de comprimer nos dépenses de fonctionnement. On fait des efforts, et c'est vrai que nous faisons des efforts, entre autres par le non-remplacement systématique des départs à la retraite. Mais ça, on n'a pas entendu Monsieur Macron pour le faire.
Et Jean-Michel Maurer, ça c'est le sens de la question de Jean, en effet. Est-ce que vous allez vous payer sur la bête, hein? En gros, est-ce que c'est sur le recrutement de ces fonctionnaires territoriaux qu'on fera des économies, puisqu'il faut en faire?
Première remarque, une commune, c'est une société de service. C'est-à-dire que clairement, c'est du service. Et le service, il est important qu'il soit humain. Donc ce que je veux dire par là, c'est que le fait d'avoir du service public porté par des fonctionnaires territoriaux qui ont l'esprit public, pour moi, c'est pas une tare, c'est pas une charge, c'est une valeur de service. Deuxième point, effectivement, les collectivités locales ont des effectifs qui peuvent croître. Mais clairement, les missions que n'assure plus l'État, qui les assume? Ce sont les collectivités. On pourrait parler de tout ce qui est carte nationale d'identité, de tout ce qui est passeport, on pourrait parler du PACS, etc. On se rend bien compte que là, c'est quand même, à un moment donné, de l'accueil du public. Et puis, la dématérialisation. Et, enfin, c'est un peu aussi, aujourd'hui, notre bataille au niveau de la PVF, c'est tout ce qui est médiation.
La PVF, pardon ?
L'Association des petites villes de France. D'accord. Excusez-moi, ça fait jargonnant.
Non, je vous en prie.
Mais clairement, on ne peut pas réduire l'accueil du public à tout ce qui est informatique avec des robots et de l'intelligence artificielle. Je crois que les problèmes et la médiation, l'humanisation, c'est important. Donc effectivement, ce que je dis là ne veut pas dire qu'on ne fait pas attention à qui on embauche sur la durée et sur le profil des postes. Ceci étant, je ne fais pas partie de ceux qui décrètent qu'il faut tant de fonctionnaires en moins, parce que derrière, il y a le territoire qu'il faut faire vivre.
Vanik Berberian.
Oui, moi je voudrais rappeler la sobriété des communes rurales en matière de personnel communal. C'est pour ça que c'est inutile de vouloir faire des économies en supprimant les petites communes. Il faut savoir que un maire, un conseiller municipal, il est au charbon 24 heures sur 24 et que très souvent, de manière bénévole, les habitants s'impliquent dans la vie de la commune. Donc la question de l'économie, elle passera par la réduction du nombre de communes.
Pierre nous appelle justement, puisqu'on parle de petites communes et des moyens des petites communes. Pierre nous appelle au 01 45 24 7000. Pierre, on vous écoute, allez-y.
Oui, voilà, moi j'ai une question. Je me demande quand même si les petites communes, qu'elles soient rurales ou urbaines, elles n'auront pas une grande difficulté à compenser ce que l'État, donc, il ne payera plus un jour. Hein. Ça, je trouve que c'est vraiment, croire à un mensonge. On sait très bien ce qui va se passer dans 2-3 ans. Par contre, pour les grandes villes, comme Lyon, où moi je vis, eh bien moi je pense que les élus, eh bien, ils vont se rattraper sur nous. Et je vais citer un seul exemple, même deux exemples. À partir du 1er janvier 2018, à Lyon, jusqu'à maintenant, une vignette résident, par an, elle était gratuite. Elle était livrée par une mairie, ça prenait 10 minutes. Elle passe à 40 euros. Le prix du stationnement, il va augmenter. La fraude ou un oubli, donc du 10 minutes pour payer, ça va passer de 17 euros à 60 euros. Alors moi, je suis quand même assez consterné par cela. Et il y a une de vos éditrices qui disait il y a quelques instants que c'était une mesure démagogique. Moi, je vais aller plus loin. Cette mesure, c'est une imposture totale. C'est nous qui allons payer, en fin de compte, la baisse de toutes les recettes des grandes villes. Ce sont les habitants. C'est une politique qui, pour moi, est une imposture totale.
Merci pour votre question, pour vos remarques, Pierre. Jean-Luc Mondin, que la grande ville, c'est vous. Donc je viendrai à vous dans un instant, quand même avec la première partie de la question de Michel Vanik Berberian sur le fait que les petites communes allaient avoir beaucoup plus de mal à s'en sortir. Est-ce que vous avez ce sentiment-là aussi? C'est vous qui serez les derniers là-dessus?
Vous savez, il y a longtemps qu'on a du mal, et ça vous me donnez l'occasion de rappeler que la dotation de l'État fait une distinction entre un habitant des villes et un habitant des campagnes. Il faut savoir que un habitant des campagnes voit la moitié d'un habitant des villes. Alors ça pouvait s'expliquer dans les 60 où il y avait la nécessité de construire. On était sur la fin donc d'une période où les gens quittaient les campagnes pour aller chercher du travail dans les villes nouvelles, etc. Aujourd'hui, on n'est plus dans ce périmètre-là.
Ça veut dire qu'on considère que vous avez quoi? Moins besoin de voirie, moins besoin d'ordures,
voilà,
moins besoin de tout ça?
Il y a moins besoin d'entretenir les bâtiments communaux, il y a même besoin de refaire les routes, etc. Et je pense que c'est une erreur. Aujourd'hui, les besoins de la population, qu'on soit urbain ou rural, convergent. On a besoin de se déplacer, on a besoin de se soigner, on a besoin de se cultiver, on a besoin de travailler. Donc les distinguos qu'on faisait jadis ne sont plus pertinents aujourd'hui. Donc il faut absolument que cette fameuse dotation considère un habitant des campagnes au même titre qu'un habitant des villes.
Jean-Luc Moudin, quand Pierre, notre auditeur, parlait de la vignette résident qui augmente, des prix de stationnement qui augmentent, c'est là que vous le trouvez le levier, vous les maires, non quand même?
Alors en réalité non, c'est une question très spécifique, il fait allusion à une réforme nationale du stationnement. Aujourd'hui, quand vous ne payez pas votre stationnement, on vous inflige une amende. Cette amende, elle est autour de 17 euros, elle est gérée par l'État, elle est centralisée. La réforme fait qu'il n'y aura plus d'amende, mais lorsque on ne paiera pas son stationnement, eh bien, il y aura ce qu'on appelle un forfait post-stationnement. Alors ça, bon, c'est du jargon administratif, qui sera alors d'un montant fixé par les communes, effectivement. J'ai entendu le chiffre que l'auditeur évoquait, à savoir 60 euros. Je sais qu'à Paris, c'est 50 euros. Moi, j'ai pris des dispositions à Toulouse pour que l'on soit à 30 euros, c'est-à-dire le minimum. Le minimum, pourquoi ? Parce que auparavant, sur les 17 euros perçus par l'État, en réalité, il y avait 5 euros seulement qui revenaient vers la commune. Et puis, le fait que ce dispositif désormais ne sera plus géré par l'État, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est nous, les communes, qui allons devoir gérer et qui allons devoir investir, donc dépenser très prochainement, pour adapter tout le système informatique, tout le système des eurodateurs. Et j'ai calculé à Toulouse que ce surcoût que nous allons devoir supporter à partir du 1er janvier, eh bien, je le chiffrais à 25 euros. Et donc, moi, j'ai pas voulu justement engraisser, entre guillemets, la collectivité sur le dos des contribuables, même quand c'est des contribuables fautifs sur le stationnement. Et donc, j'ai additionné le coût, 25 euros, avec la recette que j'ai voulu garder de 30 euros. Mais j'ai décidé de ne pas augmenter le prix du stationnement, c'est-à-dire que celui qui, à Toulouse, paiera régulièrement, normalement, son stationnement, il ne paiera pas plus avec cette réforme qu'il ne paie aujourd'hui. Après, ce que je veux faire remarquer à Pierre sur cette réforme, c'est qu'on constate aujourd'hui que dans les villes concernées, 80% des gens ne règlent pas leur stationnement. Ce qui veut dire que 20% le règlent, et quelque part, les 20%, ils peuvent se sentir idiots de le régler, alors que 80% ne le règle pas.
C'est le même ratio que la taxe d'habitation.
Donc je trouve quand même normal qu'à un moment, eh bien, tout le monde soit sur un pied d'égalité et que les fraudeurs n'aient plus le dernier mot.
Mais Jean-Michel Moret, en creux, ce que nous dit Pierre, c'est qu'il faudra bien se payer quelque part, en gros, puisque les dotations baissent. Est-ce que ça fait partie des endroits, des leviers, encore une fois, sur lesquels
la question de
Pierre
est centrale. Elle est centrale. Et depuis le début de cette émission, on tourne autour. C'est-à-dire que, très clairement, les grandes villes métropoles ont peut-être plus de moyens, plus de leviers d'action, etc. Très bien. L'espace rural, il y a des routes à entretenir, c'est loin de tout, il y a de la mobilité qu'il faut financer, il y a de la médecine, etc. L'espace périurbain, c'est un espace où aujourd'hui, il y a énormément de nouveaux habitants qui demandent des infrastructures, qui demandent des écoles, qui demandent des services publics, etc. Parce que, constat quand même sur la métropolisation, parce qu'on nous oppose les grandes métropoles, etc. Il y a une spécificité française sur la métropolisation. En fait, l'urbain aujourd'hui en France, il est aussi dans une ville rurale, il est aussi dans une ville périurbaine, si je parle de l'Île-de-France et de la Grande Couronne. Donc on voit bien que la notion d'urbanité, d'urbain et de rural est profondément modifiée. Par contre, très clairement, on ne peut pas avoir des territoires dynamiques s'il n'y a pas d'infrastructures qui fonctionnent, s'il n'y a pas de services et d'écoles qui peuvent amener aussi à nos enfants de pouvoir grandir. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est question des moyens, les centrales, la dotation, les impôts, il va falloir trouver un contrat avec l'État qui nous permette, quand on habite dans une métropole, dans une ville rurale, dans une périurbaine, d'avoir une feuille de route qui soit fixe, qui soit sereine.
Et c'est Georges qui nous appelle au téléphone, sonne au 01 45 24 7000. Georges, bonsoir, soyez le bienvenu, on vous écoute.
Oui, bonsoir, merci de prendre ma question, j'aime bien votre émission et c'est pour ça que je me suis permis d'appeler.
Eh bien, vous avez bien fait.
Voilà, simplement je voulais dire, là, on tourne autour, là, de savoir si 80% ne vont plus payer la taxe d'habitation et 20% vont continuer à la baisser, à la payer. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que nous, les contribuables, nous ne sommes maîtres pas du tout maître de l'utilisation des fonds par les collectivités, par les mairies. Or, j'aimerais qu'il y ait un peu plus de contrôle dans le bien fondé et le côté judicieux des investissements qui sont réalisés. Parce que je pourrais vous citer des tas de mairies, et même des plus grandes, vous avez un représentant là sur place, je ne parlerai pas spécialement de lui, moi je suis né à Toulouse, mais les investissements...
Mais vous habitez à 7, et vous avez pris l'accent sétois plus que Toulouse.
Oui, j'ai fait 14 villes et pays différents, en payant mes impôts, et en évitant de me faire ponctionner par un stationnement. Je vois pas en quoi le stationnement, quand il n'est pas réglé, ça nuirait beaucoup à une collectivité ou à une mairie. Mais enfin bon...
Ah bah, si tout le monde pense comme vous, en effet.
Moi, ce que je dis, c'est que les investissements ne sont pas toujours judicieux, et nous n'avons pas dans les mairies les compétences suffisantes pour gérer une entreprise, une maxi-entreprise qui est une collectivité. Alors, messieurs les maires et compagnie, commencez à avoir des gens compétents dans le domaine de la gestion, dans la pertinence d'investissements utiles, et puis après, peut-être que vous ne serez pas enclin à taper systématiquement sur le contribuable comme vous le faites.
Voilà.
Parce que si dans une entreprise, quelle qu'elle soit, le patron, c'était facile pour lui d'augmenter les prix de ses ventes de produits pour équilibrer son budget, je ne pense pas que ça soit le cas dans les entreprises privées.
Georges,
par contre,
Georges, on vous a entendu, les maires et compagnies qui sont autour de cette table vous ont entendu et vont répondre à votre question, même s'il n'y a pas vraiment de question. Jean-Michel Morère, qu'est-ce qu'on peut dire à Georges sur comment on contrôle? Comment on vérifie?
Il vient quand il veut dans ma commune.
On a le droit de venir en mairie pour voir.
Il vient quand il veut dans ma commune. Alors j'aurais tendance à dire qu'il y a des élections arrivent régulièrement et qui font que quand la gestion est mauvaise, on nous le dit. Il y a des contrôles de la Chambre régionale des comptes. Mais j'incite, il peut venir quand il veut à Trilport. Il verra qu'il y a la qualité au niveau du personnel et qu'un euro dépensé doit être un euro utile.
Vannick Berberian, dans les mairies plus rurales, là pour le coup, le maire, on le croise dans la rue beaucoup plus facilement. Et,
bah, je peux vous
et
dire que si jamais il y a une dépense inconsidérée,
voilà.
On la prend dans la figure,
c'est
très bien fait.
C'est clair.
Mais les réflexions de l'auditeur sont un peu curieuses parce qu'il faut quand même se rappeler que la fonction d'une commune, ça a été dit tout à l'heure, c'est de rendre un service. Il y a des écoles, il y a des transports, il y a tout un tas de services qui sont proposés à la population et pour ça, il faut des ressources. Alors peut-être qu'il y a effectivement des communes petites, moyennes ou grandes qui à un moment donné ont dérapé en matière de gestion, mais j'imagine que la grande majorité des communes le font sérieusement. Donc cette suspicion permanente, sincèrement, elle devient un petit peu fatigante.
Il nous reste du temps pour une question et c'est vrai qu'on n'a pas entendu de femme depuis le début au téléphone sonne. Catherine, vous habitez Saint-Nazaire et c'est à vous, on vous écoute.
Oui, bonsoir. Oui, j'habite Saint-Nazaire et justement, je voulais rebondir sur l'édito de notre maire dans le dernier magazine municipal où on sent vraiment qu'il est attiré,
on l'a pas lu,
démuni.
Hein, Catherine.
Oui.
Mais allez-y.
Et donc, cet édito du maire dans le magazine municipal de Saint-Nazaire traduit bien le désappointement du maire qui n'est pas content et qui nous fait savoir à nos citoyens qu'il n'est pas content et surtout que nos conditions de vie vont se dégrader. Donc moi, j'ai envie de dire... messieurs les maires, mobilisez-vous. Vous n'êtes pas obligés d'être obéissants. D'autre part, là, vous êtes vraiment très embêtés parce que la bourse, les cordons se serrent. Mais vous savez depuis déjà pas mal d'années qu'on va directement vers une politique d'austérité qui va vraiment handicaper le lien social et la qualité de vie des Français. On va vers la catastrophe et vous le savez bien. Seulement là, vos moyens diminuent sérieusement, vous réagissez un petit peu. Mais peut-être qu'il est temps que nos responsables politiques locaux disent stop.
Voilà Catherine, on a entendu votre message, on a compris ce qu'il y avait dans le bulletin municipal de la mairie de Saint-Nazaire. Vannick Berberian, je vous vois opiner du chef.
Oui, parce que on parle beaucoup donc des économies à faire, c'est-à-dire qu'on parle de ce qui est à la fin du processus. Moi, j'aimerais que de temps en temps on parle de ce qui est en amont, c'est-à-dire la ressource. Il y a quelques jours, on parlait de l'optimisation fiscale. Sincèrement, est-ce qu'il n'y a pas des réflexions à avoir et des actes à mener pour qu'effectivement la ressource soit davantage alimentée? On n'en parle pas assez de ça.
Est-ce que vous avez le sentiment, ce sera la dernière question, tiens c'est pour vous Jean-Michel Morère, est-ce que vous avez l'impression d'avoir une marge de manœuvre quand même, vous les maires, ou simplement dire au moment de vos réunions, là une fois par an, ben oui ça va pas du tout et on perd trop d'argent. Vous avez une vraie marge de manœuvre, vous pouvez faire changer un peu des choses ou pas?
Il y a deux contextes,
faire plaisir à Catherine.
Je veux dire, chaque commune est différente quand même au niveau budgétaire, il faut bien l'intégrer. Moi il y a deux ans, j'étais vraiment mal, j'ai dépassé 5000 habitants et j'ai des dotations, ce qu'on appelle par équation, c'est-à-dire des communes riches me donnent un peu d'argent. Bon, ceci étant, les associations d'élus, nous représentons des associations d'élus et l'APVF, l'Association Petite Ville de France, a plus de 30 ans, c'est parce que justement, on se bat pour être force de proposition, force de proposition. Et notamment, et je pense que toutes nos associations, et ce qui est vraiment intéressant, c'est que maintenant on s'allie pour pouvoir être force de proposition ensemble.
Voilà, on attend de savoir comment vous accueillerez le président de la République. Ce sera jeudi, donc à ce 100e congrès des maires de France. Merci en tout cas beaucoup d'avoir participé à ce Téléphone Sonne et merci à tous ceux qui nous ont appelés comme tous les soirs.